Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, une émission où on parle de jeux vidéo, de l'industrie, d'analyse, de PC, de consoles, des news, de tout ce qui fait notre univers de gamer toutes les deux semaines. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un programme chargé et super excitant. On va vous parler de Cyberpunk 2077, vous appréciez j'espère le mélange entre le français et l'anglais, de Marvel's Avengers, de Nintendo et de son MOBA sur mobile basé sur Pokémon, du EA Play, de plein de news sur la Xbox, de news dans le monde du streaming, enfin plein de choses. Et pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai l'immense plaisir de recevoir, pour la première fois depuis, j'ai l'impression, des années, J.K. Loret qui se joint à moi. Comment ça va, J.K.?
Salut. Bah oui, je vous dis, un petit nouveau, ça y est, qui débute. En fait, quand t'as dit pour la première fois, j'ai cru que t'allais t'arrêter là. Je dis, attends, il se moque de moi. Mais non, bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venu. Donc bonjour, je me présente, J.K. Loret, Jean Kléber, de son vrai prénom. Et oui, parce que peu de gens le savent, en fait, que mon vrai prénom, c'est Jean Kléber.
C'est pas J.K. ton vrai prénom.
Ouais, c'est ça.
Quand on a commencé à se parler, là, juste avant de commencer à enregistrer, j'étais complètement ému parce que ça fait deux mois que t'es pas venu dans l'émission. Et moi, j'ai pas l'habitude d'être sans mon J.K. pendant aussi longtemps. Donc là, bah ouais. C'était les retrouvailles.
Bah oui, c'est clair. Autant de rendez-vous manqués, c'est. Mais là, ça y est. Bon, en même temps, je reviens au moment des vacances. Alors, je sais pas si t'as prévu d'en faire en mois d'août et tout, mais bon, un petit tour de piste avant les vacances, quoi.
Il va y avoir quelques semaines de vacances. On va avoir de quoi en remplir une partie. Mais oui, effectivement, de mi-juillet à mi-août, ça va être un poil plus calme. Mais oui, on a quand même effectivement un gros programme. Je l'ai pas mentionné juste maintenant, mais on va évoquer. En toute fin d'émission, je suis sûr que certains d'entre vous se demandent si on va parler de The Last of Us 2. En toute fin d'émission, on va faire un petit topo complètement spoiler-free en fin d'émission et on enregistrera dans quelques jours, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps, mais dans quelques jours, J.K. et moi qui avons fini le jeu, enregistrerons un full spoiler cast dans quelques jours à peine, qu'on mettra bien sûr dans le flux du rendez-vous jeu, et on parlera de toutes nos nombreuses émotions et sentiments et impressions par rapport à ce jeu, et ça sera dans quelques jours. Mais on aura quand même des petites impressions sans spoiler en fin d'épisode, mais même pour ceux qui ne veulent rien du tout entendre sur le jeu, vous pourrez vous arrêter avant ce moment-là, mais on restera sans spoiler quand même.
D'ici là, j'aurai eu le temps d'essuyer mes larmes, je pense.
Pour avoir eu le temps d'essuyer tes larmes, il faut que tu aies arrêté de pleurer. Donc, je ne sais pas si ça sera arrivé dans seulement... on va faire un épisode de deux heures et demie aujourd'hui. On va se limiter à environ une heure, à peu près comme d'habitude. Mais avant de se lancer, et comme je le disais, il y a plein de choses super excitantes dont on doit vous parler. Je voudrais remercier les gens qui soutiennent l'émission, qui permettent à l'émission d'exister et qui soutiennent financièrement le rendez-vous jeu, à savoir Alexandre Verdeau, Bongvic B, Papi, Jean-Pierre Gachen, Not Benji, Miraman Cyril, Benjamin Stenger, Johan Agostini, Black Jackos et PLMT. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Vous le savez, sur patreon.com/rdvjeux, vous pouvez soutenir financièrement l'émission. Et c'est grâce à vous que l'émission existe. Et si on vous apporte un petit truc, je serai heureux que vous considériez de nous donner un petit peu de sous en échange. J'en reparlerai en milieu d'émission, évidemment. Bon allez, on a assez fait durer le plaisir. Le gros jeu dont on a eu une grosse preview encore une fois cette semaine, c'était Cyberpunk 2077, qui au passage a été décalé à novembre. Je crois que, je sais plus si c'est sur Cyberpunk où j'avais dit non, ce coup-ci c'est bon, c'est fini, il décale plus. Ok, d'accord, bien joué Patrick.
Tu l'as dit sur à peu près la moitié des jeux, je pense, qui sont annoncés ces prochains mois.
C'est et bon, sur le coup, mais bon, comme d'habitude, je dirais, qui décale pour qu'il soit bien fini, ça serait pas plus mal. Surtout que le jeu est effectivement à l'air d'être à peu près aussi ambitieux qu'on l'imaginait. Il y a bien sûr certains éléments qui sont revus à la baisse dans cette dernière preview, mais c'est presque anecdotique. Il y a des graphismes qui sont, on va dire, peut-être un petit peu moins de monde dans les rues, ce genre de choses, mais c'est tellement, ça reste tellement incroyable graphiquement et dans l'ambition du jeu dans son ensemble qu'on est assez... Moi, je suis même surpris que ça respecte les previews qu'on avait vues ces derniers temps. Alors, on a eu un Night City Wire épisode 1 qui est une sorte de présentation directe qui va avoir lieu tous les mois, visiblement jusqu'à la sortie du jeu, qui durait une vingtaine de minutes environ. On a vu beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui ont eu accès au jeu pendant quelques heures. Donc, on a plein de nouvelles infos. Et je résume un petit peu la chose, je vais te demander ton avis, J.K. J'ai l'impression que ça sent toujours aussi bon que ça avait l'air de sentir à l'époque. Alors bien sûr, c'est une présentation marketing, mais on commence à se rapprocher du cœur du jeu. Mais ça a l'air d'être, pour prendre un anglicisme, ça a l'air d'être the real deal, quoi. C'est vraiment la promesse qui a l'air d'être tenue.
Écoute, oui, globalement, oui. Après, c'est vrai qu'il y a eu deux événements récemment avec, il y a eu, comme tu dis, de la City Wire, et il y a eu aussi des previews. Donc, les journalistes ont pu y jouer, en fait, pour la première fois. Et ça, c'est cool. Il y a eu notamment des previews de 4 heures à peu près de jeu, où, malheureusement, j'ai pas pu y accéder, mais moi, j'ai des collègues qui ont joué. Et forcément, là, en 4 heures, t'as quand même, même si 4 heures, ça représente peut-être 10% de la durée de vie du jeu. Et encore, je suis optimiste.
Ouais, même pas. Visiblement, les 4 heures, c'est entièrement dans l'intro du jeu, qui est même pas la vraie quête qui commence. Ouais. Et ça avait déjà l'air suffisamment vaste pour animer les fantasmes des gens qui y ont joué, quoi.
C'est ça. Après, moi, ce que je trouve techniquement et ce qui me bluffe pour le moment le plus, c'est pas forcément les décors ou quoi, c'est vraiment le travail sur les visages, ce qu'on appelle le character design, donc le design des personnages que tu rencontres. Vraiment, ils ont tous ils ont tous un look d'enfer, ils ont des expressions qui sont hyper, hyper avancées et vraiment, tu sens qu'ils sont, que je sais pas comment expliquer, qui s'intègre bien dans l'univers, quoi. Et ça, moi, je trouve ça, et là-dessus, c'est là-dessus que moi, j'attends, c'est des projets, c'est même pas tant sur le versant, action, ou même gameplay, c'est plus sur l'écriture des personnages, la façon dont ils sont représentés, l'écriture des quêtes secondaires, des quêtes, etc. Et ça, a priori, de ce qu'on en a vu et de moi ce dont mes collègues qui ont joué en ont parlé, c'est clairement, ça s'annonce très, très bien. Parce que faut pas oublier que, mine de rien, The Witcher 3, c'était un jeu qui était particulièrement bien écrit et dense, et vraiment là-dessus c'était irréprochable. Donc a priori la Cyberpunk 2077 ça va dans cette direction. Après moi je pense que je pense malheureusement il risque peut-être d'y avoir des déçus, peut-être de gens qui s'attendaient pas qui s'attendaient à autre chose qu'un RPG, parce qu'il faut pas oublier que ça va être un vrai RPG, c'est-à-dire que c'est assez complexe en termes de progression de personnage. Il y a des dizaines d'arbres de compétences différentes, mais par contre ça va pas être un FPS dans le sens où tu pourras jouer comme un FPS, mais d'après tout ce que j'ai lu et ce qu'on m'a dit, la partie purement action elle est pas folle, quoi. C'est-à-dire que c'est pas Doom, quoi, c'est pas Call of Duty, c'est-à-dire que ce sera un RPG avec des aspects FPS. Donc effectivement, tu n'auras pas les sensations d'un pur FPS. Et a priori, ce sera plus intéressant en termes de plaisir de jeu, plutôt d'essayer de la jouer soit hacker, soit infiltration. Il a l'air pour le moment un peu plus réussi. Donc voilà. Donc peut-être qu'il y aura des déçus sur certains points qui vont peut-être s'attendre à un jeu un peu plus action ou tourner vers l'action avec un feeling plus immédiat. Ce sera pas le cas. Ce sera vraiment RPG très verbeux. Apparemment, il y a beaucoup de dialogues. Voilà, faut s'attendre à ça, quoi. Faut pas s'attendre à un GTA dans un univers.
C'est pas un open world qui. J'ai l'impression, ce que j'ai entendu aussi, c'est que c'était un petit peu plus guidé peut-être, au moins dans la quête principale, et que c'est pas le genre de jeu où tu peux t'arrives devant une action et tu peux en faire ce que tu veux, tu peux choisir ce que tu dis, tu peux, oui, il y a bien sûr des moments où tu fais des choix, mais c'est pas un truc super ouvert où tu peux résoudre n'importe quelle situation de n'importe quelle manière.
Oui et non, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment deux grandes parties dans le jeu, parce que j'ai compris, c'est l'open world qui est un peu plutôt classique, mais où tu pourras pas aller dans toutes les maisons, tu pourras pas aller dans tous les bâtiments, etc. Mais ça c'est normal. Par contre, il y aura quand même des missions qui seront très dans l'esprit d'un Deus Ex ou d'un Dishonored, où il y aura quand même beaucoup de chemins alternatifs, beaucoup de façons d'aborder les situations. Et c'est là que la spécialisation de ton personnage va être hyper importante dans ta façon de jouer. Et ça, moi je sais que mon collègue qui a joué chez jeuxvideo.com, il dit vraiment ils vont marcher sur les plates-bandes d'un Deus Ex en termes de gameplay. Ouais, il l'a bien senti. Par contre, après, c'est vrai que par exemple, l'open world en soi, il n'est pas fou. Quoi. Enfin, il n'est pas fou. J'exagère un peu, mais. Voilà. Par contre, il y a quand même cette impression de vie, ce côté un peu bouillonnant, même s'il y a moins de monde dans les rues, même si par rapport à ce qu'on avait vu dans les trailers initiaux, il y a quand même ce côté très vivant en fait, parce que chaque PNJ a l'impression à sa vie, à sa routine, à ses dialogues. Et ça, c'est vrai que c'est bien.
Et même au-delà de ça, l'un des attraits de Cyberpunk, c'est l'univers cyberpunk qui a jamais été retranscrit. On a eu plein de jeux qui étaient des dérivés, des inspirations de cyberpunk, qui étaient dans un univers un peu cyberpunk. Mais je trouve que à côté de ce qu'on voit aujourd'hui, qui va à fond sur le néon, c'est une représentation. Vraiment de ce que j'imaginais quand j'étais jeune d'un univers cyberpunk. Et toutes les autres représentations sont un petit peu étouffées à côté. Et là, il y a d'une part tous les aspects néons qui sont hyper forts, mais il y a aussi un autre élément qui est hyper important, c'est les modifications du corps qui ont, j'ai l'impression, une place centrale dans l'esthétique du jeu et qui donne c'est du world building à lui tout seul et ça donne une identité hyper, hyper forte au jeu. D'ailleurs, c'est hyper présent dans la customisation du personnage qu'on va créer. Et c'est présent partout. Tu parlais du character design. Ils ont tous un truc. En fait, vraiment, une des caractéristiques de cet univers, c'est que tu nais avec un corps, mais tu n'es pas du tout contraint à garder ce corps. Tu peux le modifier un petit peu comme tu veux. Donc, évidemment, tout le monde a au moins quelque chose qu'il ou elle ou elle a changé sur son corps. Et ça donne un truc qui est hyper radical, en fait, qui contribue, je crois, au plaisir de s'immerger dans cet univers. Ça a l'air vraiment...
Ouais, carrément. Ça c'est vrai que c'est le propre du cyberpunk qui est à la base un courant littéraire puis qui est arrivé au cinéma puis maintenant dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que des univers
qui est aussi le jeu de rôle sur lequel est basé le jeu.
Voilà. Il faut rappeler que c'est basé sur un jeu de rôle papier qui date des années 80-90, donc c'est vraiment un truc très, très, ouais, c'est presque le du cyberpunk dans le sens le plus classique, on va dire, qu'on pourrait avoir. Et je sais plus ce que je voulais
pardon,
dire. Mais oui, un jeu de rôle cyberpunk avec en tout cas cette ambition, tu vois, de jeu de rôle, d'open world, d'ouverture, de triple A, parce que souvent le cyberpunk, en tout cas récemment, je trouve, c'était très lié souvent à des jeux plus indés, tu vois, des petits budgets.
Complètement.
Récemment, il y a eu Cloudpunk qui est un super jeu, mais qui est un jeu indépendant. Il y a eu plein de jeux d'aventure dans des univers cyberpunk, mais ça restait des jeux plutôt dans une veine indé. Des triple A dans cet univers, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc c'est vrai que c'est l'un des premiers et peut-être celui qui va poser les jalons d'un truc derrière. Quoi.
Donc, pour eux, c'est... Pardon, vas-y, fini.
Non, je disais juste qu'à priori, maintenant, il reste quand même pas mal de taf en termes de polish, de technique. Mais les prévues qu'on a lues et de ce que j'en ai entendu, il y a encore du boulot, des bugs, des trucs pas fous, mais c'est pas étonnant, un jeu de cette ambition. Et bon, après, il faut rappeler que c'est des projects, c'est pas les derniers à cruncher, à faire des horaires, enfin, à taffer énormément. Le fait qu'ils remportent le jeu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va leur laisser le temps quand même j'espère, de pouvoir polish le jeu sans se cramer complètement à la tâche, en espérant que ce soit pas pour ajouter des features à la dernière minute, des trucs dont
on a besoin,
enfin, tu vois. J'espère pas non plus, mais je suis assez confiant. Enfin, dans mon souvenir, The Witcher 3 était sorti, avait été repoussé plusieurs fois lui aussi, mais il était sorti dans un état tout à fait propre. Hein. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu d'énormes bugs et tout ça. C'était pas un jeu Bethesda, par exemple, mais Mais bon, du coup, voilà, j'ai plutôt confiance avec ça. Mais par contre, et c'est vrai que ce qui est fou, c'est, je me suis fait la réflexion récemment, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais c'est le premier jeu de CD Projekt qui n'est pas un jeu Witcher. Mm-hmm. C'est presque, c'est un peu comme le deuxième album d'un groupe, tu vois. C'est le truc un peu de la confirmation, alors que c'est CD Projekt, tu vois, ils ont déjà sorti plein de jeux. The Witcher 3, c'est un immense succès, mais là, c'est un nouveau jeu dans un nouvel univers. C'est vraiment un
truc. Mais j'irais même plus loin.
C'est une vraie prise de risque.
J'irais même plus loin, tu sais, même pour la série The Witcher, les 1 et 2, ils étaient un petit peu connus, on en avait entendu parler, mais ils ont pas vraiment, ils sont pas arrivés sur le devant de la scène jusqu'à The Witcher 3. C'est The Witcher 3 qui les a fait connaître. Les trucs d'avant, c'était les albums indés qui ne passaient, tu vois, qui se passaient presque sous le manteau, ouais. Genre, ah, t'as écouté CD Projekt, c'est pas mal, ah ouais, ok. Personne connaissait. Ouais. Donc
non mais oui c'est ça. C'était connu sur la scène PC parce que c'était des jeux PC à la base. Même si le 2 est sorti, a fini par sortir sur console, mais un ou deux après. Mais c'est vrai que The Witcher 3 c'est le jeu qui les a fait connaître du grand public et du coup c'est toujours compliqué parce qu'il peut y avoir une sorte de retour de hype. Et d'ailleurs on le voit un petit peu. Hein, il y a une sorte de retour de hype malgré tout en ce moment sur le jeu où les gens sont moins, tu sens qu'ils sont moins au taquet, ils sont un peu déçus alors que enfin voilà pour le moment ça a l'air de délivrer ses promesses. Bon voilà, donc attends, moi à la limite, tu sais, ça commence presque à me gaver toute cette com autour du jeu, quoi. j'ai envie qu'on laisse un peu le truc, on laisse les développeurs finir leur jeu dans les meilleures conditions possibles et que voilà, ils nous livrent le truc et qu'on le découvre en novembre et voilà quoi.
Tu sais, moi je crois qu'on va encore en bouffer avec leur Night City Wire épisode 2, 3, 4, 5 et il y a tellement d'argent investi dans ce truc. Ils peuvent pas se rater, tu vois, à ce niveau. Tu fais bien de mentionner que The Witcher 3 était sorti sur console parce que c'est, il y a pas que ce facteur, mais c'est une énorme partie du facteur qui a fait qu'ils ont explosé et ils ont été amenés sur le devant de la scène parce que ça joue beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant de console, Cyberpunk sera disponible sur console évidemment. Il sera compatible avec la prochaine génération, bien sûr, mais il y aura un patch pour amener des améliorations à la prochaine génération, plus tard, donc le jour où vous achèterez votre nouvelle console, nouvelle génération, eh ben, ça ne sera pas tout de suite amélioré, il tournera uniquement comme sur la génération précédente. Et puis on peut imaginer à terme qu'il y aura une vraie version nouvelle génération qui sera disponible. Et là, bien sûr, CD Projekt, comme à leur habitude, ils ont dit que ça sera disponible gratuitement pour ceux qui ont déjà acheté le jeu. Mais ça sera encore un autre patch qui arrivera ensuite. Et donc, le jeu sortira le 19 novembre, à voir si ça sera plus ou moins éloigné de la sortie de la prochaine génération. Et ils ont aussi mentionné un autre truc, l'arrivée en 2021 ou 2022, je crois que c'est en 2020, je ne sais plus, d'un animé cyberpunk dans l'univers du jeu, avec Studio Trigger, qui est assez connu dans le domaine. Alors c'est en 2022, c'est bien ça. Première saison en 2022 sur Netflix. J'imagine que ça amènera un regain d'intérêt au jeu, de la même manière que la série The Witcher a amené un regain d'intérêt à The Witcher. Donc c'est bien calculé leur truc. Bon, c'est de l'animé, donc ça sera peut-être pas aussi, ça attirera pas autant de monde qu'une série en live action, mais quand même. Donc voilà pour Cyberpunk. Il y avait aussi une présentation de Marvel's Avengers que toi, JK, tu as suivi avec attention, que tu as dévoré, que tu t'es mis à pleurer devant comme devant The Last of Us.
Je vais être franc, j'ai regardé le trailer 10 minutes avant qu'on commence à enregistrer.
Bon, non, c'est pas ton truc, je peux comprendre. C'est clairement pas le truc de beaucoup de gens. Moi,
j'aime bien les Avengers hein, au cinéma, mais bah, c'est surtout, enfin, je te laisse la parole. Mais en fait, c'est pas tant le jeu Avengers qui me dérange, pas du tout, au contraire. C'est juste que pour le moment, de ce que j'en vois et de ce que je vois, ce que c'est pas du tout. Ça m'intéresse pas trop, quoi, tout simplement. Quoi.
Ouais, bah je peux comprendre. T'es pas seul à avoir cet avis. Et je crois que la longue présentation qu'on a vue, qui faisait une vingtaine de minutes, n'a pas forcément changé l'avis des gens qui étaient sur ce point de vue. Et je peux le comprendre. Clairement, ils sont dans la même direction qu'ils étaient jusqu'à maintenant. Ils ont montré un petit peu plus de gameplay. Ils ont montré un petit peu plus de leur univers. Il y a quelques trucs que j'ai appréciés. Ils ont montré l'un des grands méchants du jeu, qui est MODOK. Et MODOK, si vous connaissez un petit peu l'univers Marvel, c'est vraiment pas l'image d'un méchant qu'on va présenter dans un jeu grand public. C'est une sorte de tête sur un fauteuil flottant, et c'est une énorme tête, et des petits bras qui sortent, et des petites jambes qui sortent, et c'est un truc complètement ridicule dont tu te dis, on va pas le présenter au grand public, et pourtant, ils ont pas hésité à aller dans cette direction, ils ont aussi montré beaucoup d'attachement aux matériaux d'origine. Il y a énormément de... costumes et d'éléments dont tu dis « Ah mais oui, ça c'est le truc de telle série de comics, etc. » Donc ils sont vraiment très proches de l'univers des comics, ça c'est assez cool. Mais ensuite, à part ça, ce qu'ils ont montré comme gameplay pouvait paraître répétitif, j'en suis tout à fait conscient, et mon espoir, il faudra voir si ça se concrétise vraiment, mais mon espoir, c'est que c'est répétitif à regarder, mais à jouer un petit peu comme un Diablo, un bon Diablo-like, eh ben, c'est fun à jouer, un petit peu comme un Destiny ou d'autres jeux de ce type. C'est fun à jouer et tu prends du plaisir dans la boucle de gameplay de 30 secondes à utiliser tes différentes capacités et ta capacité ultime. Et l'autre élément qui est important à noter aussi, que j'avais noté déjà à l'époque, c'est le plaisir que t'apporte le fait que ça soit dans l'univers Marvel aussi. C'est-à-dire que pour ces jeux à grosse IP, ces jeux à grosse propriété intellectuelle, bien sûr, la qualité du jeu est super importante, mais le plaisir peut aussi être retiré de l'univers. On en parlait à l'époque de Jedi Fallen Order, c'est un jeu qui est sympa, mais dont s'il n'était pas, à mon avis, s'il n'était pas placé dans l'univers de Star Wars... personne n'en aurait parlé. C'est un demi-Dark Souls, demi-Metroid qui est marrant, qui est bien foutu, qui a de bonnes idées. Mais la raison pour laquelle il est vraiment sympa, c'est l'univers Star Wars. Ce que j'espère, ce qui est peut-être revoir mes espoirs à la baisse, hein, mais ce que j'espère de Marvel's Avengers, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ça soit un jeu sympa, un petit Diablo-like cool, enfin Diablo-like, je veux dire, dans le plaisir du gameplay, pas forcément qui va casser toutes les briques du jeu vidéo, mais par contre, le fait que ça soit dans l'univers Marvel et qu'on joue Thor et qu'on joue Iron Man et qu'on joue Kamala Khan, Miss Marvel, ça nous amène le plaisir qui vient combler combler la dose de plaisir nécessaire pour que ça soit vraiment un jeu sympa. Donc, voilà, après, ils ont présenté d'autres petits trucs. Ils ont dit qu'il y aurait du contenu additionnel. Si j'ai bien compris, c'est du contenu non payant. Et donc, tous leurs sous viendront de contenu cosmétique achetable dans la boutique. Et il y aura du contenu additionnel parce que c'est un jeu service. Il y a quand même une partie solo solide. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Mais dans l'ensemble, moi, je continue sur mon... Ça ne va pas être un jeu pour tout le monde. Mais si c'est un bon jeu pour les fans de Marvel, je serais quand même content. Voilà, oui, voilà.
Tant mieux. Non, mais ça peut être... Après, bon, ce qui... c'est vrai que c'est peut-être une question de budget, de licence, etc., mais j'ai toujours du mal avec ce côté uncanny valley des héros qui ont l'air de ressembler aux acteurs, mais pas vraiment. Tu vois, même si on a compris que c'était pas un jeu issu du MCU, a priori, ça se passe... C'est pas un jeu MCU, donc voilà. Mais du coup, ils essaient quand même, je trouve, de faire physiquement des personnages qui ressemblent un petit peu à Chris Hemsworth, un peu à... Mais en même temps, pas tout à fait. Je trouve que ça fait un peu bizarre, parce qu'on aussi, on est tellement habitué maintenant à voir le visage de ces acteurs.
Ouais.
Quand on parle des Avengers, c'est... Bon, voilà.
Moi, je trouve qu'ils ressemblent... Si tu décris les personnages des comics... et que tu modèles un personnage en 3D en fonction de cette description, tu peux tout à fait tomber sur les personnages du jeu. Donc, moi, j'ai un petit peu... Je comprends qu'on puisse le voir comme ça, mais je comprends
surtout,
que ça pose problème dans tous les cas.
Effectivement, oui, et puis surtout, après, je pense que si le jeu est réussi, au bout d'une demi-heure, tu ne feras plus gaffe et ce ne sera plus un problème, tu vois.
Il faut que le gameplay soit suffisamment bon pour être juste au niveau où tu dis « Ouais, c'est sympa à jouer. » Et après... quant à tes persos cool que t'aimes bien jouer, qui sont sympas, après, s'ils sortent des nouveaux persos, chaque nouveau perso, tu vois, tu peux sortir toute la panoplie des X-Men, tu peux sortir tous les persos de l'univers de Spider-Man, enfin, il y a plein de trucs à faire et qui amènent le plaisir par ce biais-là, quoi. Bref, on verra.
Ouais.
Quelques mots sur Nintendo. Il y a un MOBA qui va arriver sur mobile... dans l'univers de Pokémon. Alors, le truc que j'attendais pas du tout, je crois même que c'est Tencent qui l'a développé pour compléter la caricature, c'est un MOBA Pokémon sur mobile. C'est sur mobile, je dis, mais c'est sur Switch et sur mobile. Et je vais donner quelques news supplémentaires sur Nintendo et puis on pourra en parler. La production de Switch devrait revenir à la normale cet été, enfin. Donc, on devrait pouvoir en racheter d'ici le courant de l'été. On a également le président de Nintendo qui s'est excusé pour les problèmes de Joy-Con drift. Enfin, ils ont enfin reconnu le problème. Ça, c'est... il était temps. Et puis, dernière nouvelle, Nintendo serait en train de reconsidérer le développement sur smartphone pour se concentrer sur le développement sur Switch, ce qui est une nouvelle intéressante. Entre parenthèses, dans l'univers du mobile, Apple serait également en train de reconsidérer son développement sur Apple Arcade, non pas pour faire moins de développement, mais pour se concentrer sur des jeux qui gardent les joueurs engaged, donc les joueurs impliqués, plutôt que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle pour les joueurs traditionnels qui regardaient du côté du service Apple Arcade, mais il faut aussi avouer que je crois qu'il n'y a pas une seule personne que je connais qui est encore abonnée au Apple Arcade, donc c'est pas forcément nous.
6 mois, mais parce que j'ai oublié que je payais.
Bah voilà, exactement.
Mais oui, donc tout en temps, tiens, je suis abonné, je dis bon, pour 5 balles, je le garde, tout en temps, je lance un jeu, mais...
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais donc voilà, ça fait beaucoup de news Nintendo. Un MOBA Pokémon, vraiment, je le voyais pas venir. Alors, il y a des modifications, c'est pas aussi violent, il y a des mécaniques un peu différentes, mais je l'aurais jamais vu venir, moi.
Ouais, moi non plus, surtout Nintendo et MOBA, tu vois, c'est pas deux mots que t'associerais de base là-dedans. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils savent plus trop quoi faire aussi avec leur jeu mobile, même si bon, ok, c'est un jeu Switch, et tu l'as dit juste après, eux-mêmes sur le mobile, bah, ils vont peut-être ralentir la cadence. T'as l'impression en fait que c'est aussi, et peut-être pourquoi pas, un terrain d'expérimentation le mobile pour eux. Tu vois, ils ont essayé de décliner leur licence avec plus ou moins de succès dans d'autres types un peu, dans des genres un peu différents, avec des recettes, des économies différentes, que ce soit. Alors, ça peut être réussi comme Fire Emblem, a priori, qui est un jeu qui a très bien marché. Et à côté, tu as eu l'exemple Mario Kart, tu vois, qui était beaucoup moins convaincant. Là, ils essaient un autre genre de jeu.
Ouais, Fire Emblem, entre parenthèses, qui a très bien marché parce que c'est un jeu à microtransactions infinies. Hein.
C'est pour noter. Ça. Mais en termes de succès, je parle, hein, que
bien ce soit
qu'on n'apprécie pas la recette. Tu vois, à l'époque, leur premier jeu mobile, c'était quand même un jeu premium à 10 balles. Donc, c'était le Mario Run, je crois.
C'est ça.
Bah, ça n'a pas marché. Je pense que c'est vraiment un terrain d'expérimentation. Et ça, à la limite, au moins, on peut le reconnaître ça. Ils essayent des trucs. Bon, si ça marche pas, ça marche pas.
La raison pour laquelle, excuse-moi, la raison pour laquelle je note que c'est un jeu à microtransactions, c'est un jeu à lootbox en fait, le Fire Emblem sur mobile, c'est que
Fire Emblem, ouais.
ce que ça m'évoque, et c'est le seul qui a vraiment marché, et surtout au Japon, mais la raison pour laquelle je dis, c'est que ça me fait un peu peur pour les jeux type traditionnel, type joueur traditionnel sur mobile, parce que c'est la dernière grosse boîte qui était en train d'essayer de développer des jeux type joueur traditionnel sur mobile. Et on a aussi Blizzard qui est en train d'essayer avec un jeu comme Diablo, donc peut-être qu'il y a encore une chance, mais j'ai l'impression que c'est les derniers à jeter l'éponge. Et certains m'ont dit, oui, mais regarde, il y a PUBG, Fortnite, machin, Call of Duty, évidemment, c'est des énormes jeux, et je vais en parler dans un instant, sur mobile, c'est des énormes jeux, mais c'est des jeux auxquels les joueurs traditionnels ne jouent pas, c'est des adaptations directes des jeux sur PC, qui sont prévus sur mobile, mais les joueurs traditionnels n'ont toujours pas envie de sortir leur mobile pour jouer dessus. Et donc, le fait que Nintendo jette l'éponge, je me dis, est-ce que ça veut dire que c'est fini ? Nous, joueurs traditionnels, on n'aura jamais un développeur qui va nous proposer un truc qui pourrait nous plaire sur ces plateformes mobiles. Je commence à me poser vraiment la question, et c'est pour ça que je le mentionnais.
Ouais, et puis quand on y réfléchit, est-ce que t'as des versions mobiles d'un de tes jeux classiques, on va dire hardcore, auxquels tu joues beaucoup, auxquels t'as joué? Moi, franchement, j'ai pas d'exemple, tu vois. T'as cité Diablo, effectivement. Bon, il y a Call of Duty, mais je suis pas sûr que les gens qui jouent à Modern Warfare sur leur PC, ils vont aussi jouer à Call of Duty mobile sur leur mobile.
C'est pour ça que je dis,
c'est une philosophie.
Il n'y a pas de développeur qui ait réussi à faire cette conversion. Des jeux mobiles à succès, beaucoup. Des jeux mobiles qui ressemblent aux jeux traditionnels, beaucoup. Mais des jeux mobiles qui attirent les joueurs traditionnellement PC et console, Moi, j'en connais pas. Enfin, oui, bien sûr, il y en a. Je veux dire, il y a quelques joueurs PC et console qui se sont accrochés à certains jeux mobiles. Mais d'une manière générale, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas la tendance. Et le fait que Nintendo jette l'éponge, ça me fait poser la question, est-ce que ça va arriver, quoi ? Bon.
Ouais, bah, bon, il y a encore le cas Pokémon Go, mais c'est vraiment à part. C'est presque pas un jeu
c'est
Nintendo
autre chose.
Pokémon Go. Mais... Oui, c'est encore autre chose, mais voilà. Ouais, bah, ce sera intéressant de suivre. Alors, moi, ce MOBA Pokémon, alors à titre personnel, c'est vraiment là, ça coche tous les trucs qui m'intéressent pas. Donc, je suis pas sûr d'y jouer, sauf si professionnellement parlant, on m'y oblige, quoi. Mais je pense pas que ce soit le cas.
Après t'avoir entendu dire ça, je pense que ça serait une excellente décision.
Exactement, ouais. Par contre, peut-être pour revenir sur Apple Arcade, enfin, au moins que tu voulais parler Nintendo,
vas-y.
Revenir sur Apple Arcade, c'est un peu inquiétant parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le lancement d'Apple Arcade, donc c'est en septembre à peu près avec l'iPhone 11, ils n'ont jamais communiqué une seule fois sur le nombre d'abonnés, les revenus générés par Apple Arcade. Je crois pas, hein. On n'a aucun chiffre sur Apple Arcade. Et moi, de ce que j'ai entendu des sources un peu off, etc. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment pas terrible les résultats d'Apple Arcade. Et je trouve ça dommage parce qu'en soi, le service est vraiment cool parce que justement, l'idée d'Apple Arcade, c'était de s'éloigner des modèles free-to-play, jeux service, microtransactions, etc., qui sont majoritaires aujourd'hui sur mobile. Et justement, pour ce prix-là, vous avez accès à des jeux premium, complets, des jeux type indé avec vraiment des vraies bonnes idées. Et du coup, s'ils retirent cette éditorialisation, tu vois, de leur catalogue, qu'est-ce qui va rester, tu vois, je comprends pas.
Bah, c'est compliqué, on verra. C'est encore qu'une rumeur, hein, donc ça se trouve c'est pas le cas, mais ça me surprendrait pas qu'ils se disent bon, on a fait les critiques d'art poète, on a été faire des jeux super artistiques qui d'ailleurs nous ont plu beaucoup à la sortie du service. Je crois que tous les joueurs traditionnels disaient ah ouais, c'est cool, il y a plein de jeux sympas, des jeux intéressants, machin. Et puis ils se rendent compte qu'au final, il y a peu de gens qui y jouent. Donc je pense qu'ils vont pas abandonner l'idée d'avoir des jeux sans monétisation supplémentaire. C'est un abonnement, tu payes et c'est terminé. Donc ça, je crois que c'est pas forcément en danger. Par contre, peut-être qu'ils se disent, on va arrêter avec nos idées artistiques prout-prout et on va faire des jeux qui sont un petit peu qui se concentrent sur l'engagement, d'après les rumeurs qu'on entend, donc bah, le gameplay fun qui te propose de revenir. Ça m'inquiéterait s'ils disaient, bon bah donc on va inclure des microtransactions en plus. Parce que là, bien sûr, ça change toute l'approche du gameplay. Mais avant ça, disons que je me dis pas, ouais, ça va être super bien, mais je suis curieux de voir ce que ça donnerait, quoi.
Bah, il leur faudrait un, deux, voire trois jeux comme ça qui seraient avec du endgame, un peu un jeu service, mais qui respecte un peu, voilà, un peu sain, pour justement encourager les joueurs à garder leur abonnement. Et derrière, de temps en temps, sortir une petite pépite artiste, slash indé, ce que tu veux. Parce qu'effectivement, ces jeux artistes, ces jeux indés, ils sont très cool, mais en général, t'en as fait le tour en quelques heures. Donc, il faut constamment qu'on te réapprovisionne en jeux de ce type. Avec un ou deux gros hits dans lesquels tu vas rester, bah, c'est vrai que les gens vont rester abonnés. Les gens resteraient abonnés et voilà.
Ouais. Tout à fait. Bon, bah, à voir ce que ça va donner. Un autre morceau sur lequel je crois qu'on va passer un peu rapidement, c'était le EA Play Live qui... bon, alors, il y avait quoi ? Il y avait Star Wars Squadrons qui était le gros morceau, sur lesquels j'ai des choses à dire, mais je vais y revenir. Je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est tout. Il y a aussi Skate qui plaît à certains. Il y a un nouveau Skate. Mais surtout, en plus de Rocket Arena, Apex Legends qui arrive sur Switch cet automne, avec le crossplay, ça c'est cool, mais surtout Electronic Arts se concentre sur la Switch. Et ça, c'est là aussi, on parlait des derniers gens qui jettent, des dernières sociétés qui jettent l'éponge. Bah là, c'est Electronic Arts qui jette l'éponge en disant, OK, la Switch, c'est un truc énorme, il faut qu'on y soit aussi. Alors, les jeux qui vont sortir sur Switch d'Electronic Arts qu'on a vu, c'est pas forcément les trucs qu'on va attendre le plus au monde, mais c'est intéressant de voir que EA enfin se dit, ah oui, la Switch, il faut qu'on y aille aussi. Et l'arrivée d'Apex Legends, évidemment, c'est un gros morceau. On n'a pas vu d'image. Hein. J'imagine que graphiquement, ce n'est pas le truc qu'ils vont mettre en avant, mais évidemment, c'est sur Switch, donc ce n'est pas ça qu'on lui demande. Et puis, il y a le nouveau jeu de Joseph Fares, le créateur de A Way Out, qui dit fuck dans les retransmissions live, qui arrivera en 2021 aussi, qui est un petit peu la caution indé de EA, qui fonctionne d'ailleurs pas trop mal. Mais oui, le gros morceau, c'était clairement Star Wars Squadrons, un jeu PVP avec une petite expérience solo, 40€, 5 contre 5, PVP, dogfight, dans l'univers de Star Wars, avec des TIE Fighters, des vaisseaux de Star Wars, quoi. Toi, c'est ta carte.
X-Wing et tout ça, ouais. Oui, c'est ma cam. Globalement, c'est ma cam. C'est vrai que historiquement parlant, les shooters spatiaux dans l'univers de Star Wars, que ce soit des trucs un peu simulation, hein, c'est bizarre de parler de ça pour Star Wars, mais type les X-Wing Alliance sur PC ou alors des trucs beaucoup plus arcade, genre les Rogue Squadron. D'ailleurs, je pense qu'ils s'inscrivent plus dans cette démarche-là sur console. C'était des jeux que j'aimais beaucoup. Après, moi, je suis un joueur très solo. Enfin, j'attends toujours. Alors aussi, il y a eu Jedi Fallen Order, c'est vrai. Mais j'attends toujours un vrai bon jeu solo. En dehors de Fallen Order, dans l'univers de Star Wars, avec une vraie bonne campagne. Et celui-là, bon, t'as l'impression qu'il mise pas. Il y a rien de campagne
pas
solo.
Du tout,
mais c'est vrai que ça sent la campagne solo à la Battlefront 2, tu vois, un truc que tu vas torcher en 4 heures, que t'auras oublié aussi rapidement. C'est un gros tuto, tu vois.
Exactement, ouais. Ça sent la campagne solo qui est un gros tuto. Mais c'est marrant, tu dis, je veux un gros jeu solo Star Wars, machin. Bon, à part Jedi Fallen Order, qui soit une vraie expérience solo. Bon, à part Jedi Fallen Order, mais bah, c'est quoi alors Jedi Fallen Order? C'est ça, non? C'est ce que tu demandes.
Non, mais justement, j'aimerais bien plus de jeux de cette trempe-là. Tu vois, des triple A solo dans l'univers de Star Wars. Moi, je suis un vieux con qui regrette toujours l'arrêt de l'annulation de Star Wars 13-13, tu vois, des projets comme ça. Et voilà, non, mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est leur plus gros jeu de la fin de l'année, et en même temps, tu dis c'est EA, et leur plus gros jeu de la fin de l'année, c'est un jeu multijoueur dans l'univers de Star Wars, ok, qui va coûter 40€. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire, c'est étonnant que ce soit pas un plus gros jeu, en fait.
On est d'accord, oui.
Parce que bon, et ça a l'air très joli. Dans les trailers, dans ce que t'as vu, c'est vrai que leur moteur, bah, j'imagine que c'est Frostbite. Il a plus rien à prouver. Ça va probablement être, j'espère, assez fun à jouer, parce que dans Battlefront 2, je crois, il y avait des phases il y avait des combats dans l'espace, et c'était pas dingue. Mais je suis quand même extrêmement étonné que cette année, à la fin de l'année, ils aient pas. Enfin, honnêtement, moi j'étais persuadé qu'il y aurait un Battlefield présenté, annoncé.
Ouais.
Et non, tu vois, il leur manque quand même tous les ans, normalement, ils ont un gros jeu de la fin de l'année, en fait. L'année dernière, c'était Fallen Order et non, c'est tout. Je sais pas s'il y avait d'autres jeux, mais c'était quand même Jedi Fallen Order. Bon, voilà. Pour moi, il leur manque quand même un très gros truc. Star Wars Squadron, ça a l'air très sympa. Ouais. Mais voilà, j'en attends un peu plus d'un EA à la fin de l'année, quoi.
Bah, il y a en plus le fait qu'il y ait... Bon, il y a les jeux de sport, qui sont quand même évidemment importants. Mais,
évidemment, mais...
L'autre truc à mentionner sur Star Wars Fallen Order... pardon, sur Star Wars Squadron...
Star Wars Squadron.
C'est que c'est un jeu à 40€ dont ils ont dit qu'il n'y aura pas de contenu supplémentaire. Et c'est intéressant pour de nombreuses raisons, c'est que... C'est un truc que de nombreux joueurs demandent depuis longtemps, genre voilà, moi j'en ai marre, j'achète un jeu qu'on me vend en kit, c'est n'importe quoi, moi je veux un jeu comme à la grande époque, j'achète un jeu, il est terminé, ok, très bien. Sauf que ce genre de jeu, moi j'ai l'impression que 40€, je pense que ça va pas être un truc où il va y avoir des millions de contenus, bon c'est surtout une grosse partie multi, mais c'est le genre de jeu où pour être vraiment intéressant, il faut du nouveau contenu qui arrive, quoi. Et donc,
bah complètement.
Je me demande s'il n'y a pas des gens qui vont devoir ravaler un petit peu leur plainte, tu vois, de dire ah bah si, en fait, il y a des fois, il faut qu'un jeu t'ait du contenu en plus. Alors oui, pour les jeux solo, c'est peut-être un petit peu différent, mais
là pour un jeu multi, c'est quand même ce serait très étonnant. Alors. J'imagine aussi que si le jeu marche très bien, cartonne, etc., bien entendu qu'ils vont sortir du contenu. Enfin, ça me paraît très, très surprenant que ce soit pas le cas. Mais bon, c'est vrai que après, tu sais, ils disent ça aussi parce qu'ils sont encore trop baptisés la polémique Battlefront 2 et qu'aujourd'hui, il y aura pas de DLC, il y aura pas de microtransactions, il y aura pas de machin comme ça, il y aura pas de truc en plus. C'est presque une position éditoriale, tu vois, de dire, regardez, nous, notre jeu, on le sort complet. Depuis Battlefront 2, c'est pas la première fois qu'il y est. Et d'autres gros éditeurs précisent, voilà, ce sera le jeu complet, il y aura tout, quoi. Mais oui, ça peut être très bien le contenu supplémentaire dans un jeu, s'il est bien fait, ça peut être très intéressant. Hein.
Ouais, c'est surtout vis-à-vis des gens qui se plaignent que les jeux ont trop de contenu additionnel. je crois que sur les jeux solo, bon, on pourrait peut-être en discuter, mais sur les jeux multi, bah, c'est un atout. Et là, on va voir ce que ça va donner par rapport aux gens qui sont... En même temps...
Se plaindre de ça de manière complètement enfin frontale, c'est débile. Ce qu'il faut voir, c'est quel est le contenu de base en fait. Est-ce que ton jeu de base il se suffit à lui-même? Si oui, bah, le contenu additionnel il est bienvenu, par rien t'obliger à l'acheter, tu vois.
D'accord. On est d'accord, mais c'est juste par rapport à ça, effectivement, je trouve ça marrant l'idée que là ils sortent un jeu genre un package qui est terminé et puis qu'en fait c'est peut-être pas une bonne idée quoi. Enfin, on verra. Il sort cet automne du jeu. Donc, d'autres news intéressantes, il y a notamment des news sur la Xbox et la Xbox Series X. Il semblerait que les jeux exclusifs de Microsoft soient présentés le 23 juillet, donc on y arrive enfin, le Xbox 2020 va arriver le 23 juillet. La Xbox Series S serait dévoilée en août. Alors la Series S, c'est la version moins chère. La moins chère et moins puissante, évidemment. Donc on verra si c'est effectivement dévoilé en août. Mais il y a de grosses choses qui se préparent cet été pour la communication de Microsoft. Gardez à l'esprit que en juillet également, fin juillet, on a le Summer Games Fest qui est plein de démos jouables sur Xbox One, des démos de ce qu'on aurait eu en fait dans un E3. Vous pourrez télécharger pendant une semaine, télécharger et jouer à des démos, mais des trucs en cours de développement. Alors, sur les noms des démos que j'ai vus, il n'y a pas énormément de trucs qui vont plaire à énormément de monde. Il y a des petits trucs de niche, surtout. Je suis sûr qu'il y a deux personnes qui vont trouver des noms de jeux... pardon. Ah, Hatchoum. Il y a des gens qui vont trouver des noms de jeux qui leur plaisent énormément, mais c'est des trucs genre Haven, Skatebird, ce genre de trucs. Donc, voilà.
Ça a l'air trop bien, même.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas une démo d'un truc sur lequel tout le monde va se jeter. Tant qu'on parle de jeu, le Xbox Game Pass, ce mois-ci, a, bon, Fallout 76, on s'en fout un peu, mais il y a Soul Calibur 6, donc ça c'est sympa, allez le choper. Et attendez, il y a un autre jeu qui était un peu cool. Je me souviens plus, il y a un autre jeu.
Game Pass, je sais plus, sur Game Pass PC.
Crosscode, voilà. C'est Crosscode.
Ah, Crosscode, ouais.
Ouais, qui est assez cool. Donc, ça arrivera le 9 juillet, je crois. Des jeux sympas sur le Game Pass, si vous êtes abonné. Et enfin, à propos du Game Pass, il y a un développeur qui a déclaré publiquement sur Twitter que l'arrivée de son jeu sur Game Pass, qui est Descenders, c'est un jeu de VTT en fait, de descente de montagne en VTT, a énormément contribué aux ventes du jeu. Et c'est un truc qu'évoquait Microsoft depuis un moment, en disant qu'un jeu qui arrive sur Game Pass, bah en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un peu contre-intuitif, mais ça provoque une augmentation du nombre de ventes du jeu, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui en parlent, les gens qui ont le Game Pass y jouent, et donc ça lui donne une nouvelle visibilité, et ceux qui n'ont pas le Game Pass se mettent ils s'y intéressent, et donc peut-être y jouent. Et donc c'était une info intéressante. Alors c'est un point de données anecdotique, unique, qui ne représente peut-être pas l'ensemble de l'industrie, mais c'était intéressant à noter quand même. Donc voilà, ça fait quelques news sur Xbox, je te laisse la parole.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Oui, alors il y a eu plein d'infos. Bah, disons que le plan de communication se déroule plus ou moins comme prévu là pour Microsoft. Alors j'imagine qu'il y a eu, la période veut que je pense qu'ils ajustent constamment leur com et la date de leur présentation. J'ai lu une rumeur passée, alors je ne sais pas du tout si j'ai dit une bêtise, mais qu'apparemment de base ils avaient prévu même de sortir, enfin à l'origine ils voulaient sortir la Series X au mois d'août. Ce qui me paraît étrange d'ailleurs de sortir une console au mois d'août, mais ce serait dingue que ce soit le cas parce que ça aurait été très couillu. Là en fait, moi, disons que cette Series X, en tout cas ce rendez-vous du 23 juillet, il va être ultra important, évidemment. On ne va peut-être pas forcément revenir là-dessus, mais le Inside Xbox du mois dernier, c'était le mois dernier, je crois, ou peut-être il y a deux mois, on s'en souvient tous, hein, il a déçu beaucoup de monde. Donc là, ils sont attendus au tournant. En plus, il passe après Sony avec la présentation de la PlayStation. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, sur le. Moi, c'est vrai que je trouve pour le Game Pass. Alors, je sais pas si l'offre Fallout 76 sous le Calibur concerne le Game Pass PC. Je t'avoue que je sais pas si t'as l'info, mais moi, j'ai pas vérifié. Mais, le Game Pass prouve encore une fois que aujourd'hui, si t'achètes une Xbox, t'as aucune raison de pas prendre le Game Pass, en fait. Enfin, tu vois, en termes d'offres de jeux, c'est tellement. C'est tellement immanquable. Et je trouve que, en fait, avec cette offre-là, Game Pass plus console, plus écosystème Microsoft, hein, parce que même j'inclus le PC dedans, je trouve que Microsoft a l'intelligence en plus, en fait, de moins se mettre en frontal face à Sony en termes de concurrence pure. Ils arrivent, en fait, à se démarquer un petit peu parce que ils ont toujours pas l'offre éditoriale en termes d'exclusivité de jeu aussi qu'on aura aussi important que chez Sony, même si ils se sont largement améliorés et en plus ils ont acheté plein de studios. Mais là, je trouve qu'en faisant ça, le modèle économique, on va dire, de l'écosystème Xbox aujourd'hui, je le trouve hyper intéressant, et il permet en fait de se dire bon bah voilà, ça peut presque être une console en plus que tu achètes, parce que en fait pour un prix qui est relativement modeste, donc le prix d'une console et un abonnement, tu as presque du jeu à volonté en fait toute l'année, quoi. Donc c'est une démarche super intéressante, et je ne vois pas trop Sony aller à, même s'il y a le PlayStation Plus, mais pour moi c'est pas au même niveau. Pour le moment, Sony, je les vois pas aller dans cette direction là et donc c'est plutôt intéressant parce qu'ils ont chacun finalement pris une direction un petit peu différente. Je trouve intéressante, mais bon, voilà.
Non, mais tu as complètement raison, et ça fait partie de leur stratégie sur l'ensemble de leur stratégie globale. C'est-à-dire que il est clair que ça va faire partie de leur stratégie sur la prochaine génération de consoles aussi, en disant « Ok, la console, elle coûte tel prix, mais vous pouvez prendre un abonnement à l'année à 100 balles et vous avez une quantité de jeux invraisemblable ». Y compris, et c'est là que ça va être le gros morceau, y compris les jeux first party qu'on va vous présenter fin juillet. Et évidemment, on attend tous Halo Infinite, qui, il faut l'avouer, est un petit peu plus un gros morceau du côté des États-Unis qu'en Europe ou au Japon, mais quand même, c'est quand même un gros truc. Puis il y a d'autres jeux qui sont également dans le lot et qui seront inclus dans le Game Pass.
Qu'il faut jamais oublier, c'est que tous ces gros AAA qui vont être présentés par Microsoft, ils seront gratuits, enfin pas gratuits, mais ils seront jouables dès le premier jour, voilà.
En Game Pass, sans
surcoût, quoi. Mais le jeu qui m'excite le plus, alors pour le moment il est officiellement n'existe pas encore, c'est un nouveau Fable, il y a quand même de plus en plus de rumeurs et de leaks, etc., qui montrerait quand même que il présenterait un nouveau jeu Fable. Et moi, c'est une licence que j'aime, c'est une série que j'aime beaucoup et j'aimerais bien voir ce que ça donne, quoi.
Ouais, c'est l'un des trucs dont on n'a pas entendu parler aux présentations précédentes, parce qu'on avait vu plusieurs trucs aux présentations précédentes, dont Hellblade 2, qui avait fait beaucoup de bruit, mais c'est vrai qu'ils ont encore d'autres choses et des studios très compétents dans leur escarcelle, donc ouais, on risque d'avoir des belles choses en juillet. Juste pour préciser, Soul Calibur, c'est sur Xbox uniquement, et Fallout 76, c'est sur PC et Xbox. Crosscode d'accord. Également, je crois que c'est sur PC et Xbox. Donc voilà. En parlant de Microsoft, la grosse news, qui est peut-être à vrai dire la plus grosse news de cet épisode, c'est le fait que Microsoft ferme Mixer, leur service de streaming qu'ils ont acheté il y a, enfin ils ont acheté Beam il y a deux ans, quelque chose comme ça. Ils ont bien sûr débauché Ninja, le plus gros streamer du monde, de chez Twitch. Ils ont débauché Shroud à grands coups de millions. Shroud, qui est un autre gros streamer, de chez Twitch, pour qu'ils viennent venir streamer exclusivement sur Mixer. Et là, ils ont fermé, enfin, ils ont annoncé la fermeture du service dans quelques semaines, fin août. Transfert de tous les abonnés, ou enfin de tous les. La structure du truc, donc les abonnés, les moyens de paiement, etc., vers Facebook. Et du coup, Ninja et Shroud se retrouvent, visiblement Facebook aurait proposé beaucoup d'argent aux deux streamers pour qu'ils viennent sur Facebook, et eux ils ont dit bah non merci, c'est gentil mais ça va. On ne sait pas très bien où ils vont aller. Moi ma prédiction c'est que Ninja va pas retourner sur Twitch parce que ça, ils sont trop mal faits, il y a eu trop de d'aigreur entre les deux, encore que après c'est des questions d'argent, hein. Ça se trouve il va y retourner, mais moi je le vois bien aller chez YouTube, qui est une alternative crédible. Shroud, je le vois bien retourner sur Twitch, mais du coup ils ont fermé leur contrat avec Mixer. Les rumeurs, c'est que Ninja aurait récupéré les 30 millions de dollars qu'il était censé récupérer sur 3 ans pour son contrat avec Mixer. Shroud, c'est seulement 10 millions de dollars sur 3 ans qu'il a récupéré en raison de la fermeture du service, immédiatement du coup. Et surtout, la grosse partie, c'est que bah, Microsoft a jeté l'éponge sur Mixer, alors qu'on imaginait qu'ils avaient des énormes ambitions pour le service. Est-ce que tu l'expliques, JK? Moi, j'ai mes idées également, mais qu'est-ce que tu en penses?
Je suis pas un spécialiste de l'économie des plateformes de streaming, mais très basiquement, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, arriver à lutter contre Twitch, déjà, c'est très compliqué. Après, je ne saurais pas te dire quelle est la plateforme numéro 2 derrière Twitch. C'est quoi? C'est YouTube? Je suis même pas sûr.
YouTube, oui. Facebook Gaming, qui n'est pas si loin derrière que ça non plus. Hein.
Ça, je pense qu'on est sur un marché, comme souvent avec ce genre de choses, où 4 acteurs, c'est trop, quoi. 4 acteurs, ça ne peut juste pas marcher. Déjà, 3, c'est compliqué. Et Microsoft, ils sont assez malins. Enfin, ils ont une capacité d'adaptation qui est assez rapide. Ils ont déjà fait ça auparavant. Et Microsoft, tu vois, c'est quand même une énorme machine. Et c'est probable que tout en haut, tu aies un Satya Nadella qui a regardé les chiffres et qui a dit, non, mais les gars, on va arrêter, quoi. Tout simplement, quoi. Enfin, tu vois, ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire. En fait, Microsoft, depuis quelques années, j'ai l'impression, ils resserrent un peu leur champ d'activité. Et ça leur réussit parce que voilà, ils se sont concentrés sur le cloud, sur les services, ils le font plutôt bien. Le hardware, bon, c'est ça marche toujours bien entendu, mais on en a parlé juste avant, ils ont buté un peu vers une offre service. Du coup, bon, peut-être qu'ils ont tout simplement dit on va couper les vannes maintenant avant que ça coûte trop d'argent et que ça ait un impact trop gros sur les résultats de la boîte. Et voilà, tout simplement. Après, moi, j'ai pas de scoop exclusif à vous donner. Mais, pas plus.
Mais c'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'en tirais aussi comme conclusion, c'est que en fait, ils auraient pu essayer de continuer à investir des millions et peut-être même plus dans l'infrastructure de Mixer, et ils auraient continué avec un gros point d'interrogation sur un horizon à 2 à 5 ans. Peut-être qu'ils auraient pu réussir à dépasser un autre des acteurs de ce milieu, mais la plus grosse probabilité, c'est que... Il faut regarder les autres acteurs. Twitch, ils sont installés, c'est leader, ils ont les 2/3 du marché et ils ont eu une croissance monumentale ces derniers mois. Mais monumentale, c'est genre du 80%, quoi. Avec la pandémie, évidemment, mais ça installe des usages. YouTube Gaming a connu une grosse croissance aussi. Ils ont aujourd'hui 20% du marché en nombre d'heures regardées. Facebook, ils sont quand même à 11%. Mixer, ils étaient à 1,4%. Et surtout, ils n'ont pas du tout profité de la pandémie. Leur croissance a été quasiment nulle. Alors qu'ils streament, c'est-à-dire que le nombre d'heures streamées représente 14% des nombres d'heures streamées totales du marché pour 1,4% des heures regardées. C'est-à-dire que le ratio entre streamer et spectateur est ridicule sur Mixer. Donc, je peux tout à fait imaginer qu'il soit dit « Bon, écoutez les gars, il faudrait tout reprendre de zéro, c'est même pas sûr que ça marche, il y a trois énormes mastodontes à côté. » Twitch, c'est ceux qui sont installés. YouTube, ils ont YouTube Gaming, qui est déjà à la base un énorme truc sur, en vidéo YouTube classique. Facebook, c'est Facebook. Mixer, on a quoi ? Alors, ils auraient pu se dire, on attache ça à la Xbox, on fait... Mais c'était hyper risqué, donc ils ont dû dire, OK, bon, on arrête les dégâts maintenant. Plutôt que de fermer le truc dans 2 ans et que narrative... l'histoire dans la presse devienne la Xbox Series X a été lancée il y a 2 ans et Mixer ferme, genre tu amalgames un petit peu tout, ça fait un truc négatif. Ils se sont dit, on le ferme maintenant et comme ça, le bad buzz, il sera passé quand on sortira notre console et on aura un boulevard devant nous de positivité. Je crois que c'est tout à fait ça, quoi. Écoute, on est d'accord, très bien. Tencent a lancé son service de streaming également qui s'appelle Trovo. Alors, comme on pourrait l'imaginer, sur Trovo, c'est surtout du mobile. Et je vous encourage à les regarder. C'est quoi ? C'est Trovo.live, je crois. T-R-O-V-O. Allez regarder les gens qui jouent sur Trovo aux jeux mobiles. Mais c'est des aliens, quoi. Ils ont des petits recouvre-doigts spéciaux. Et ils jouent, mais tellement bien sur un iPad. Ils te mettent toujours la caméra sur leur iPad ou sur leur tablette pour te montrer comment ils jouent. Mais c'est incroyable, quoi. T'as l'impression de voir... tu sais, j'ai l'impression d'être un papy qui regarde une personne qui fait des comment dire, qui a 450 APM sur StarCraft 2. Et je comprends pas comment c'est possible, quoi. C'est impressionnant. D'accord. Vraiment impressionnant. Okay. C'est même pas une question de vitesse d'action, mais c'est une question de précision avec le touch. Et c'est vraiment impressionnant.
Ouais. Ok.
Et bien sûr, dernier gros sujet dans le domaine du stream, Twitch a banni Dr. Disrespect de son service, qui est un gros streamer, un petit peu controversé. Il avait déjà eu une suspension, il avait eu plein d'histoires, je vais pas remonter au début, mais il avait eu une suspension, je crois que c'était l'année dernière, puisqu'il avait streamé depuis des toilettes de l'E3, je crois, ou un salon à la PAX ou un truc comme ça. Et enfin, vraiment... non, mais...
Je préfère ça qu'un PewDiePie qui sort des horreurs, mais bon, pas quand même, mais bon.
On est d'accord, mais enfin, c'est quand même pas génial. Bon, tu rentres dans des toilettes... C'est pas ses toilettes de son hôtel, hein, c'était des toilettes publiques. Il est rentré dans les toilettes et il est en train de streamer. C'est ça, le truc.
Ah oui, d'accord.
Donc, Et donc, il s'était fait suspendre un moment. Bon, effectivement, c'était approprié. Mais là, il s'est fait bannir. Et du coup, au milieu de toute la série de controverses dont on avait déjà parlé sur le harassement et le harcèlement dans l'univers du jeu vidéo qui fait vraiment un beaucoup de bruit en ce moment et avec raison, bien sûr, il y a plein de théories qui volent partout. Il y a une théorie selon laquelle... malgré son contrat avec Twitch qu'il avait renouvelé il y a quelques temps, il était en train de travailler à un concurrent à Twitch avec d'autres partenaires. Enfin, il y a plein de théories, mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Lui-même, Guy Beam, c'est son vrai nom, lors de son dernier stream, il avait l'air clairement perturbé. Il a commencé à dire des trucs qui n'avaient pas beaucoup de sens et puis il a coupé son stream en disant « Ah, fuck !» Et clairement, on a eu l'impression qu'il se passait quelque chose. Et c'est évidemment quelque chose de mystérieux, de surprenant. Mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Il y a plein de gens qui spéculent sur plein de trucs. Twitch a raison, Dr. Disrespect a raison, Twitch, c'est des enfoirés, machin. On ne sait rien du tout. Et donc, spéculer là-dessus... Alors oui, on est tous curieux, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Et en plus, il y a plein de gens qui viennent défendre Disrespect... encore une fois, on aime ou pas le personnage, il est très, très talentueux dans ce qu'il faisait et c'était une personnalité particulière. Mais ce n'est pas notre pote. C'est un énorme streamer qui gère une énorme affaire commerciale et il y a plein de gens qui oublient ça, qui viennent le défendre contre d'autres streamers. Ah oui, mais tel streamer fait ceci, pourquoi lui, il a été banni et pas eux, machin. Enfin, clairement, c'est
D'accord.
Tout à fait.
Après, moi, je, à côté de la peut-être que tu pourras me répondre, mais quand donc a priori c'est un ban définitif. C'est ça le.
Il semblerait, mais aucun des deux ne s'exprime, ni lui ni Twitch.
C'est ça qui est
dingue. Ce qui sent très très fort le conseil d'avocat avec une action de justice en cours qui dit bah non, on va pas, faut pas en parler. Donc aucun des deux.
Oui, parce qu'un ban définitif, on imagine que c'est définitif, mais jusqu'au jour où ça n'est pas, où ça n'est plus. Enfin, je veux dire, ça peut.
Bah, on ne sait pas. On ne sait même pas si c'est un ban définitif. Ils ont dit ouais, oui, il a été banni et sa chaîne n'existe plus. Mais alors après.
Ah ouais. Ouais. Bon, ok. Mais c'est mystérieux en tout cas.
Très mystérieux, et puis ça fait. Je comprends que les gens s'excitent parce que c'est tellement. Tu vois, il a une histoire, c'est un personnage particulier qui a une histoire particulière, et puis les circonstances du truc avec ce dernier stream, c'est évidemment. Ça fait un petit peu. Comment dire. Série télé, quoi. T'as envie de savoir ce qui se passe.
Ouais, complètement, ouais.
Mais. Bon.
Je me demandais si c'est pas une mise en scène, même si je pense pas.
Je crois pas. Là, c'est trop gros. Non.
Ouais, c'est pas trop gros. Ouais. Surtout que ça fait bien, peut-être pas une semaine, mais ça fait plusieurs jours, quoi.
Ça fait une semaine maintenant. Non, fin de semaine dernière.
Ouais, c'est ça.
Et si c'est une mise en scène, le problème, c'est que ça décrédibilise Twitch. Donc, j'y crois pas du tout. Et à vrai dire, je plains pas du tout Dr. Disrespect parce que, à moins qu'il ait fait quelque chose de moralement répréhensible, ce qui est possible. Il est possible qu'il y ait une histoire de harcèlement derrière, et dans ce cas-là, bon, bah, ok, au revoir, merci. Mais si c'est pas le cas, si c'est juste une affaire financière, je peux vous garantir qu'il va revenir, mais encore plus fort que par le passé. Il réussira bien à se trouver une maison, soit chez YouTube, soit chez Facebook, et je pense que tout va aller très bien pour lui, quoi. Donc,
bon. Ouais.
Bref, donc voilà pour nos histoires de streaming. Il reste quelques petites news. Il y a un Battle Royale qui devrait être annoncé par Ubisoft très bientôt. C'était les derniers à ne pas en avoir. Donc voilà, il devrait arriver ce soir. On aura la présentation. Je ne sais même plus comment il s'appelle, mais il arrive. Shuhei Yoshida a annoncé une initiative pour les indépendants sur PlayStation. On avait ça il y a, on va dire, fin courant PS3, début PS4, et bien là, ça revient de manière un petit peu plus formelle, ce qui est plutôt pas mal, parce que les indépendants n'étaient pas hyper à l'aise sur PlayStation, et c'est une force de les avoir. Le jeu Harry Potter en open world serait bien prévu pour 2021, on en avait entendu parler en rumeur il y a quelques temps, et bien il serait toujours en cours de développement. Ah oui, le jeu d'Ubisoft, c'est Hyperscape, donc ça arrive ce soir, l'annonce en tout cas, et puis dans la tradition, je pense qu'il sera lancé dès le lendemain. Crucible, tiens, puisqu'on parle de gros jeux, vous savez, le jeu d'Amazon, écoutez, il retourne en bêta fermée. Il s'est tellement planté qu'il retourne en bêta fermée. Alors,
carrément fermé, ouais.
Carrément fermé. Alors, clairement, c'était pas un jeu incroyable. Il avait pas de quoi être en compétition avec tous les autres jeux de ce domaine. Mais retourner en bêta fermée, c'est presque du jamais vu. Et c'est vraiment marrant de voir à quel point les géants de la tech, parce que c'est Amazon qui est derrière, les géants de la tech n'arrivent pas à être à l'aise dans les jeux. Ils n'y arrivent pas.
Ouais, bah ouais.
Et ça me rappelle.
C'est un métier, hein, tu ne rentres pas comme ça.
Bah exactement. Et comme la tech et les jeux sont des cousins, les journalistes tech, les sociétés de la tech ont l'impression que c'est un peu la même chose. Mais combien de fois j'ai entendu des énormités sorties par les gens de la tech parce qu'ils comprennent la tech et ils croient qu'ils comprennent le jeu vidéo. Les Nintendo devrait arrêter de faire du hardware, les consoles portables c'est fini, les consoles c'est fini, les joueurs vont tous jouer sur mobile. Enfin, ce genre de conneries qu'on entendait il y a quelques années, ça vient des journalistes tech qui ne connaissent que la tech. Et clairement, là, avec Crucible, et c'est pas la première fois qu'Amazon se plante, hein, mais c'est marrant, alors ça a peut-être aucun rapport, mais ils n'y arrivent pas. Peut-être qu'il deviendra génial, hein, Crucible, quand il reviendra. Mais... Disco Elysium va être transformé en série télé, ça risque d'être intéressant. World of Warcraft classique va avoir l'ouverture des portes d'Ankirage, le début du patch le 28 juillet. Donc si vous avez raté cet événement monumental dans le monde de World of Warcraft à l'époque où il avait vraiment eu lieu en 2007, vous aurez l'occasion en 2020 de le revivre, et ne le ratez pas parce que c'est a priori qu'une fois dans une vie, bon, maintenant deux fois. Quoi d'autre ? Il y a Ninjala qui est sorti sorti sur Switch et qui a beaucoup de succès. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller regarder. Fortnite, pas Battle Royale, mais Save the World, il est plus en Early Access et il ne sera pas free-to-play. Donc, ils sont en train de retravailler Fortnite Save the World. Je suis curieux de voir ce que ça donne.
Il faut rappeler aux gens que Fortnite existait avant le fait que ce soit un Battle Royale. C'est vrai qu'on avait complètement oublié ça, mais à la base, ce n'était pas un Battle Royale. C'est littéralement ce qu'il a sauvé. Hein.
Complètement, oui. Et donc, c'est marrant de voir ce qu'ils ont décidé de faire avec Fortnite Save the World et pas Save the World. Enfin, bref. Il va y avoir un Bloodstained Curse of the Moon 2. C'est marrant ça parce que Bloodstained, c'est le jeu, le Castlevania de Koji Igarashi qui avait été sorti en Kickstarter, et Curse of the Moon, c'était une version type NES, type oui. NES, donc 8 bits, qui était sortie en bonus au Kickstarter, et il a connu pas mal de succès, et donc ils vont sortir le 2 alors que c'était un jeu bonus, et il a l'air assez développé le 2.
Moi, pour troller, mais c'est presque pas un troll, c'est que je trouve que Curse of the Moon est plus sympa que Bloodstained, en fait.
Ouais.
parce que Bloodstained, c'était vraiment pas... Enfin, j'ai pas trouvé ça terrible. Et Curse of the Moon est plutôt sympa dans le genre hommage au Castlevania 8 bits.
C'est sympa, écoute, quoi. Je pense qu'ils sont d'accord avec toi, puisqu'ils sortent le 2. Et enfin, le Crysis Remastered, il y a eu un leak de la version Switch qui est sorti. Moi, je n'ai pas eu le temps de le voir, il a été supprimé, mais ça a poussé le studio à dire, bon, on va tout repousser, on va retravailler sur le jeu parce que clairement, on n'est pas... Alors évidemment, sur Switch, Crysis, ça va faire bizarre, mais il devait être tellement pourri que du coup, ils se sont dit, Crytek, ils sont
sur Switch, quoi.
Mais pourquoi pas? C'est un jeu qui a quoi, 15 ans, Crysis, donc bon.
Non, c'était 2008, donc...
Ok, 12 ans, pardon.
On s'y approche. Hein.
bah oui, c'est ans, mais, ça, tu te rends compte.
Mais attends, mais c'est un jeu qui a 12 ans, mais qui est resté jusqu'à très récemment un des jeux les plus gourmands et exigeants, en fait, en termes de puissance sur ton PC, quoi. Enfin, c'est pendant très longtemps, c'était genre le benchmark ultime, hein, Crysis, donc sur Switch, faut voir.
Ouais.
Bon, je sais pas.
C'est ça le truc.
Après, ils font des miracles sur Switch. Hein. Ils ont adapté The Witcher, ils ont adapté...
Non, mais c'est clair qu'il ne sera pas aussi beau que la version normale, mais ce n'est pas ce qu'on demande à la Switch. Et le truc, c'est que sachant que ce n'est pas ce qu'on demande à la Switch, et malgré ça, ils ont dit « Oula, ok, bon, on va retourner à bosser un petit peu », ça devait être qu'il était vraiment moche, quoi. Bref... donc voilà pour les dernières petites news. Je l'ai mentionné, mais il y a un gros mouvement, une sorte de énième MeToo du jeu vidéo, du jeu vidéo, parce qu'on en a déjà eu qui a lieu en ce moment dans toute l'industrie. Il y a plein de gens qui sont en train d'être dénoncés par des victimes qu'on est en train d'écouter à juste titre, et c'est quelque chose qui, j'espère, mènera vers une industrie plus saine. Il est largement plus que temps. J'ai pas énormément de choses à ajouter parce que bon, je suis pas forcément légitime sur ce point, mais je voulais le mentionner quand même et puis encourager tous ceux qui nous écoutent à également aller écouter les victimes et faire en sorte que l'environnement qui rend tout ça possible change. Et quand je parle de ça, je ne parle pas que des choses extrêmement graves dont on entend parler, mais même des trucs... Vous savez, ça ne sort pas de nulle part, toutes ces choses. Ça peut être les blagues sexistes du collègue qui dit des trucs devant la machine à café. Je ne vous dis pas qu'il faut lui mettre votre poing dans la figure, évidemment, mais dire « tu sais, c'est pas cool, moi, ça ne me plaît pas trop », ou juste faire une petite remarque, tu dis « oh, pas cool ». Et voilà, ou la main qui passe sur l'épaule de quelqu'un qui n'a rien demandé, ce genre de trucs... On fait une petite remarque, on n'a pas besoin de s'embrouiller complètement avec tout le monde, mais pas laisser passer en fait les choses. Moi, je crois qu'au niveau de tout le monde, ça peut aider à changer un petit peu l'environnement, et je crois également que ça peut contribuer. Alors évidemment, ce n'est pas la seule chose à faire, il y a plein de choses importantes à faire, mais à notre niveau, je crois que tout le monde peut aider de cette manière. Donc peut-être les petites blagues sexistes, les petites remarques sur les collègues qui sont malvenus, les petites mains qui sont innocentes selon certains, mais qui ne sont quand même pas nécessaires ou désirables. Voilà, faire des petites remarques et changeons tous ensemble cette ambiance.
J'ajouterais juste qu'il y a que Libération a sorti aujourd'hui une enquête sur assez approfondie sur Ubisoft, justement. Ça vient juste de sortir, donc je l'ai pas encore lu parce que c'est disponible en ligne via abonnement et c'est aussi dans le journal évidemment. Donc si vous lisez la presse généraliste, la presse quotidienne, il y a un papier de Erwan Cario justement qui on connaît bien sur ce qui se passe ou ce qui se passait chez Ubisoft voilà à ce niveau-là.
Plusieurs cadres d'ailleurs suspendus pendant une enquête chez Ubisoft. Hein, on parle d'Ubisoft.
Non, bah, c'est exactement en rapport avec ça, hein, l'enquête.
Et d'ailleurs, je ferai une remarque. J'ai entendu beaucoup de gens dire « Ah voilà, on est jugé coupable avant que le procès soit fait. » Alors évidemment, il y a un principe qui est important de ne pas préjuger de la culpabilité de quelqu'un. Je pense qu'on est tous d'accord sur le principe. Mais il y a aussi des circonstances spécifiques dans cet environnement qui sont traditionnellement extrêmement hostiles aux victimes, qui font qu'il faut prêter plus attention à ce qu'elles disent aujourd'hui pour changer les choses. Et je ne dis pas qu'il faut présumer de la culpabilité de quelqu'un, mais ce n'est pas ce que fait Ubisoft ici. Ils suspendent les personnes qui sont accusées et il mène une enquête et il y aura des conclusions d'une enquête qui va décider de ce qui va se passer. Et pour moi, c'est la bonne chose à faire parce que l'alternative, c'est quoi ? Les gens qui sont dénoncés de manière crédible, hein, on n'est pas en train de dire que n'importe qui va mettre un tweet sur Internet anonymement va pouvoir faire suspendre quelqu'un. Mais quelqu'un qui est accusé de manière crédible, bah, c'est difficile de dire il continue à bosser comme si de rien n'était et à interagir avec ses collègues et avec les gens qu'il a pu victimiser. Donc, c'est la prudence dans ce domaine qui est effectivement compliqué à gérer. Si certains se retrouvent innocentés au bout de l'enquête, bah évidemment que ça sera compliqué à gérer. Mais je crois que c'est la bonne méthode à suivre. C'est pas qu'ils ont renvoyé les gens, c'est qu'ils les suspendent et puis il y a une enquête. Et je crois, moi, que c'est la bonne mesure. C'est pas idéal, c'est pas ne rien faire, mais c'est ce qu'on peut faire. Donc, je voulais le mentionner parce que j'ai entendu beaucoup de gens invoquer cette idée de la présomption d'innocence. Et évidemment que c'est un principe important, mais là, c'est pas exactement ce dont on parle. Bon, sujet compliqué, encore une fois, nous on en parle un petit peu, mais il vaut largement mieux aller écouter ceux qui en parlent, ceux et celles surtout qui en parlent le mieux.
Tout à fait.
Et puis, on va dans un instant parler de The Last of Us 2. Juste un petit mot pour dire que Sony a révélé qu'ils avaient vendu 4 millions de Last of Us Part 2 en 3 jours, dans le premier week-end, ce qui est une explosion du record précédent. Le record précédent étant détenu par Spider-Man, qui s'était vendu à, je crois, 3,3 millions. Et le record précédent, c'était God of War, qui s'était vendu à 3,1 millions. Alors évidemment, l'augmentation du nombre de consoles installées joue en partie, mais pas que. C'est vraiment un record qui a été explosé de manière presque inattendue. Il faudra voir s'il continue à se vendre aussi bien. Mais j'aurais presque tendance à dire que ça risque d'imposer un Last of Us Part 3 à un moment. J'ai posé la question sur Twitter et étonnamment, 50% des gens voulaient un Last of Us Part 3, 50% ne voulaient pas. Moi, j'aurais pensé que 80% des gens diraient « Ah mais non, pas besoin d'un Part 3 », comme on le disait à l'époque après le Part 1. Donc peut-être que le deuxième a convaincu les gens un peu que c'était possible. Mais en tout cas, bon, quoi qu'il en soit, il se vend très très bien. Et je crois que maintenant, on va faire une petite 5-10 minutes en spoiler-free, complètement spoiler-free, sur The Last of Us Part 2, pour vous dire ce qu'on en pense. Si vous voulez nous quitter maintenant, eh ben vous pouvez le faire. Avant ça, quand même, JK, c'est JK Loret sur Twitter. Moi, je suis NotePatrick sur Twitter. N'oubliez pas de venir nous suivre. Twitter, Facebook, Instagram, bien sûr. NotePatrick sur Instagram, très important à noter. Frenchspin.fr pour les notes de l'émission et pour surtout nous laisser des commentaires. Et puis donc, spoiler free, hein. On reste quand même prudent. Si vous voulez rien savoir du jeu que vous n'y avez pas encore joué, arrêtez-vous maintenant. Et dans tous les cas, on aura dans quelques jours un spoiler full. Mais spoiler free, JK, je te pose même pas de questions, je te laisse la parole.
Wow. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en spoiler free, très honnêtement, c'est compliqué d'en parler. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être assez court. Hein. C'est compliqué d'en parler correctement sans spoiler quoi que ce soit, parce que je l'ai fini hier. Donc, ce jeu de Last of Us Part 2, c'est je trouve que c'est l'un des jeux les plus dont le game design et le gameplay, les mécaniques de jeu est aussi autant et intrinsèquement lié à la narration et à l'histoire. Franchement, les deux sont ultra liés et je trouve que Naughty Dog, ils font ça depuis très longtemps, hein, même depuis Uncharted et tout ça. Et là, ils sont arrivés en fait à un niveau stratosphérique en termes de mêler les cinématiques à la narration, au gameplay, de manière fluide. En fait, t'as vraiment aucune interruption. Et donc cette recette là, ils l'appliquent de manière assez basique. Hein, enfin, en termes de mécanique de jeu, si vous avez joué au 1, vous retrouverez ce que vous avez connu dans le 1 avec finalement assez peu de nouveautés. Hein, mais c'est pas ça l'intérêt du jeu, justement. Enfin, c'est toujours très bien fait, hein. C'est toujours extrêmement plaisant. Les combats, ils ont un côté, je vais dire viscéral parce que j'ai pas d'autre mot, mais c'est un peu un mot galvaudé aujourd'hui. On l'a tellement dit, mais là vraiment dans ce jeu-là, c'est vraiment ça.
Ah, je crois que littéralement, c'est le plus adapté. Hein. Effectivement, viscéral, c'est
quoi? Bah oui, là voilà, c'est-à-dire que voilà les... Et la façon dont tu vas alterner des combats au corps à corps extrêmement violents avec des moments, et deux secondes après, tu vas essayer de faire de l'infiltration, puis après, tu vas faire du shoot un peu plus classique. Et en même temps, c'est un jeu de survie, donc quand t'as 6 balles dans ton chargeur, t'es content, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est déjà connu, c'est pas très nouveau. Mais par contre, c'est au service d'un jeu qui, du début à la fin, vraiment jusqu'à la dernière seconde, et d'une radicalité. En fait, moi en fait, ce qui me tue, ce qui me surprend le plus, c'est qu'un jeu comme ça, avec autant de monde qui a bossé derrière, autant de budget com, etc., pour une expérience qui est vraiment dure, mais dure dans le bon sens du terme, dans le sens où t'en ressors pas indemne. Très honnêtement, enfin moi, tu vois, je vais être franc, hein, j'ai rarement autant pleuré devant un jeu, mais surtout pleuré tout au long du jeu à plusieurs reprises, en fait, pas genre qu'à la fin ou quoi, tu vois. Et c'est vraiment là-dessus, ils ont réussi un truc incroyable. Et aussi, c'est un jeu qui nous sort de notre zone de confort en termes de ce qui nous font faire. C'est pas un jeu à choix, et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une vision dont Neil Druckmann, le réalisateur, il a une vision et il te l'impose. C'est pas des moments, tu sais, des fois dans les jeux assez basiques.
C'est pas un jeu de rôle où tu choisis ce que tu vas faire.
Est-ce que tu l'as tué? Non, là il t'impose le choix, même si c'est pas un truc que tu veux faire, bah tu dois le faire parce que c'est pas ton histoire, en fait. C'est l'histoire.
Et le plus fort. C'est un peu comme dans le premier. Le premier, par contre, on spoil un petit peu, hein, forcément. Mais donc, si vous n'avez pas fait le premier, là, je vous implore d'arrêter d'écouter et d'aller faire le premier. Mais dans le premier, la clé du truc, c'est effectivement que tu rentres dans la peau de Joel et que tu fais ce que le personnage fait et pas ce que toi, tu voudrais faire. Et là, ils ont presque étendu, encore une fois, sans parler de choses spécifiques, mais ils ont étendu cette idée à tout le jeu. Et dans tout le jeu, le jeu, en fait, te demande de te mettre dans la peau des personnages alors que toi, t'en as pas envie, quoi. T'as envie de faire d'autres choses, t'as envie que ça s'arrête. Mais c'est difficile à dire parce que c'est difficile à expliquer parce que le jeu est pas un jeu qui est fun, c'est pas un jeu qui est plaisant, mais c'est quand même un jeu qui te prend, qui te happe. Et de la même manière, j'ai fait un spoiler full de Pixels, mon émission anglophone, et l'une des choses que je disais, encore une fois, c'est pas spoiler, mais ça donne quand même quelques indications sur le truc, donc vraiment, si vous l'avez pas fait, si vous êtes pas en train de le faire, si vous l'avez pas commencé, arrêtez d'écouter, je vous le recommande, mais c'est plus dans la tragédie. Moi, ça me fait penser à une tragédie dans le sens où un Roméo et Juliette, c'est pas un truc fun, c'est pas un truc qui est plaisant, mais pourtant, c'est un truc qui est complètement tragique, qui est horrible à regarder, même si maintenant, bon, on le connaît tellement que voilà, mais pourtant, on l'apprécie. Et là, on est dans le même registre, c'est une tragédie, et il y en a très très peu dans le jeu vidéo des tragédies, et c'est une tragédie qui est pas plaisante, mais qui est tellement forte qu'on reste dedans, quoi. Mais c'est dur, comme tu le dis.
Non, mais c'est dur. Et effectivement, il y a vraiment des moments où on te fait faire des choses que t'as pas envie de faire, en fait. Et je peux comprendre aussi tout le. Non, je peux comprendre. Non, je le comprends pas parce que 90% du temps, c'est des trucs de connards. Je parle du review bombing sur le jeu, ouais. qui est pas justifié dans 90% des temps. Par contre, je peux comprendre aussi que les joueurs soient gênés par certaines situations qu'ils aient pas envie de vivre. Et ça, je peux le reconnaître. Et pour moi, au contraire, c'est en ça que le jeu est fantastique. Mmh. Moi, ce que je rajouterais en plus, peut-être de mon côté pour terminer, c'est que je trouve que pourquoi est-ce que le jeu s'appelle Partout ? Parce que je trouve que c'est la première fois dans un jeu où une suite s'attache vraiment jusqu'au bout, du début à la fin, à créer son histoire sur la suite directe et les conséquences directes de la fin du précédent jeu. Et ça, je trouve ça incroyable.
C'est que vraiment, mais ce qui est marrant, c'est que
c'est vraiment les conséquences. Les conséquences de la fin du 1 qui est une fin incroyable. Si vous l'avez fait, vous savez de quoi je parle. Et vraiment, c'est la semaine partout, c'est vraiment les conséquences de ça jusque pendant 25-30 heures, quoi. Mmh. Et ça se tient, en fait, ça se tient vachement bien.
Ouais, j'ai envie de répondre et de dire des choses, mais comme on a dit qu'on n'allait pas spoiler, on va se réserver pour le spoiler full. Donc bon, on le comprend, dans l'ensemble tu l'as aimé, ouais, tu l'as plus qu'aimé, j'ai l'impression.
Incroyable, incroyable. Enfin, c'est mon jeu de l'année, et je pense que même un Cyberpunk, je sais pas, mais ça va être très compliqué pour moi de faire mieux cette année que ça, quoi.
Je t'avoue que moi, en l'ayant fini, j'étais pas sûr. Je savais pas, j'avais rien vu sur le jeu, j'avais rien lu, et donc j'étais livré complètement à moi-même en l'ayant fini la semaine dernière, et donc j'étais un petit peu ambivalent, je savais pas. Un peu comme le premier... quand tu le finis, t'es un peu mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et tu dois laisser tes sentiments se reposer un peu pour savoir ce que t'en penses. Et sur le deuxième, sur toute l'expérience, c'est pas juste la fin, mais sur toute l'expérience, j'étais perplexe. Je savais que j'avais pas voulu m'arrêter, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui m'avait plu, évidemment. Je pensais que c'était un super bon jeu, peut-être pas aussi bon que le premier, mais que tu vois, le premier, c'est un 10 sur 10, quoi, pour moi. Donc, on sait que rien n'est parfait, et que le premier, d'ailleurs, il était pas du tout parfait. Il y avait plein d'éléments qui étaient pas bons, mais pour moi, c'est mon jeu préféré, peut-être avec Outer Wilds, mais c'est mon jeu préféré de tous les temps. Et là, au fur et à mesure que j'y repense et que je repense à tout ce que fait le jeu et tout ce que m'a fait le jeu, il est en train de monter encore plus dans mon estime. Là, il est à un niveau jeu de l'année pour moi, et il n'est pas impossible qu'il monte encore plus haut, quoi. Donc, c'est un travail qui est admirable, unique, courageux, vision de réalisateur, mais complètement, qui prend à contre-coup le public. En fait, un petit peu comme le Red Dead Redemption 2, on est dans un triple A, quadruple A, qui a une vision d'un dé, qui a une vision d'auteur. Et,
un peu,
ouais. C'est, bon, il y aurait plein de choses à dire, mais...
Et y a aujourd'hui, à part Rockstar et Naughty Dog, tu vois, c'est à ce niveau de budget de production, tu vois, qui d'autre peut faire ça, qui d'autre peut se permettre de faire ça, tu vois. Et derrière, en plus, ce qui est génial, c'est que c'est 7 millions de ventes, c'est 4 millions, comme tu l'as dit, et ça va continuer à se vendre. Par contre, derrière, je suis curieux d'avoir la réaction, enfin, tu vois, faudrait faire des sondages sur ce qu'on pensait les gens de ce jeu quand les gens vont le terminer. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de phénomènes de rejet par rapport à l'histoire, par rapport à, enfin, bon, ouais. on en parlera probablement.
On en parlera
un peu plus tard, mais ouais.
Dans quelques jours, on fait notre spoiler cast et cet aspect, on l'évoquera évidemment forcément. Bon, bah, merci à vous tous de nous avoir... Pardon, j'ai un peu trop mangé, de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci JK de m'avoir accompagné. J'ai hâte dans quelques jours qu'on se retrouve pour parler de tout ça. Avant ça, j'évoquais JK Loret sur Twitter. Est-ce qu'il y a d'autres endroits vers lesquels tu veux diriger nos auditeurs ?
Bon, comme d'habitude, ZQSD pour des podcasts sur plutôt le jeu PC. Et puis jeuxvideo.com toujours pour des sujets un peu plus orientés hardware et tech. Et le journal du hardware tous les vendredis. C'est sur le stream, c'est à 16h30, ça dure 2 heures. Et voilà, on rigole bien, on parle de tech en rigolant. C'est déjà pas mal.
Super, merci beaucoup. Pour ma part, c'est donc NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis également sur mon site web, frenchspin.fr. Et puis surtout, patreon.com/rdvjeux. Si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller le faire en 2 minutes. Là, l'épisode se termine. Vous pouvez vous dire « Ok, j'apprécie ce qu'ils font, j'ai passé un bon moment, j'ai été informé ». Franchement, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas soutenir le rendez-vous jeu ? Je vais aller sur le site, ça prend 1 minute et demie, vous voyez, encore moins que 2 minutes, et puis pour le prix d'un petit café, d'un pain au chocolat, ou d'une chocolatine même, vous pouvez soutenir l'émission, et j'apprécie énormément. Le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez juste scroller, cliquer, et ça prend 2 minutes. Merci à vous tous. On vous donne rendez-vous dans quelques jours. J'espère qu'on ne manquera pas ce rendez-vous, J.K. Très, très bientôt. Plein de bises.